Notre invité, il est là. François Vincent de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante au Québec. Comment allez-vous?
Hey, bonjour, ça va bien parce que je vous parle.
Ben oui, non, ça va bien, ça va bien. Est-ce que on doit abolir la taxe carbone?
Ben, les dirigeants de PME au Québec sont tannés d'être les seuls qui paient quelque chose, qui puis leurs compétiteurs dans le reste du pays ou en Amérique du Nord ne paient pas. C'est quand on demande aux entrepreneurs s'ils sont pour l'environnement, s'ils veulent faire des modifications, oui, ils sont vraiment d'accord. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à continuer à être dans un régime qui leur fait payer plus cher l'essence pour que le gouvernement puisse faire des subventions multinationales? Ben c'est là où ça passe plus. Là.
Mais vous avez sondé vos membres, et vos membres sont assez clairs. Là. C'est 4 sur 5, là. C'est 88 sur 10 qui disent « la taxe carbone me ralentit, la taxe carbone fait en sorte que je suis plus compétitif, et ça se peut qu'à un moment donné, ma business, ben, je vais fermer plutôt que continuer à payer dans le vide. »
Puis ils veulent aussi qu'il y ait un modèle qui soit pareil dans toutes les provinces. Tu sais, le Québec, on n'est pas dans une bulle, comme dans les Simpsons, là, qui créent la ville autour de la ville. On n'est pas dans une bulle. Nos entreprises sont en compétition avec les autres entreprises des autres provinces, puis aussi avec le reste de l'Amérique du Nord. Puis on se retrouve dans une situation où, depuis les 5 dernières années, elles sont le punching bag parce qu'elles ont vécu la fermeture de l'économie, l'augmentation des coûts de production, la pénurie de main-d'œuvre, la guerre tarifaire. Puis là, on voit que dans le reste du Canada, ben il y en avait une taxe carbone. Elle était différente, là, mais il y en avait une en Colombie-Britannique puis une dans le reste du Canada. Ouais. Le gouvernement, l'année passée, il a renvoyé 2,5 milliards aux entreprises, sauf de la Colombie-Britannique et du Québec, de la taxe carbone, parce qu'ils payaient, mais on donnait aux petits. Cette année, ils ont donné 123 millions à peu près avant de juste fermer la bourse. Nous, on continue de payer, puis le coût va continuer à augmenter. Puis quand on parle de compétitivité, là, je vais vous donner un exemple. Une entreprise en construction, là, puis tu as 10 F-250. Ben, ça va te coûter, ça coûte juste 200$ par année. Ben, mets ça par troc fois 10, ben, ça représente un coût supplémentaire pour l'entreprise. Il y a certains qui payent plus aussi, notamment en agriculture, parce qu'il va avoir, ça va avoir un impact partout. Donc, oui, l'utilisateur payeur, parce qu'il y a certaines entreprises qui vont acheter des crédits de bourse pour polluer. Ben, pas les petites entreprises. Elles vont payer plus cher leur essence. Puis elles ne vont pas bénéficier du fonds.
Certaines entreprises de transport nous disaient que par semaine, là, cette taxe carbone-là leur coûte entre 20 et 25 000 $ de plus qu'en Ontario, par exemple.
Bien, tu sais, c'est énorme. Puis on voit qu'il y a plusieurs reportages qui ont traité de la question, là, notamment dans le journal. Puis certaines entreprises tu sais, qui peuvent le faire, notamment de transport, ne vont pas tanker au Québec. Ben c'est pas toutes les entreprises qui ont le luxe de faire ça.
Exact.
Fait que c'est des coûts supplémentaires qu'on leur envoie dans un contexte où elles subissent déjà d'importantes augmentations des coûts. Puis je ferai peut-être le parallèle avec le dossier de l'énergie. Là. On a vu le premier ministre du Québec parler des investissements de 200 milliards du plan d'Hydro-Québec. Mais entre vous et moi, là, c'est qui va payer pour ce plan-là? C'est les PME. C'est les PME
Et les clients des PME, là, parce que le coût va être refilé aux consommateurs. Là.
Exact. Mais les PME vont ramasser le surcoût qui ne sera pas transféré aux résidentiels parce qu'ils sont protégés à 3%. Nous, on a fait une évaluation très conservatrice d'une augmentation de 4,5%. Puis là, l'augmentation est 4,8% là, pour les trois prochaines années. Puis dans 10 ans, on va pelleter dans le cours des PME 3,5 milliards. Donc, on augmente leurs coûts au niveau de l'électricité. Puis de l'autre côté, on a aussi des coûts supplémentaires avec la taxe carbone. Puis on se retrouve dans un environnement fiscal le pire pour la petite entreprise du Canada puis de 20 États américains selon une étude qu'on a publiée le mois dernier. On peut-tu au Québec faire mieux sans que ça passe par plus de taxes, plus de paperasse puis plus de syndicats?
Juste avant votre intervention, je parlais de documents qui circulent dans les municipalités. Comment taxer davantage les citoyens, les entreprises? Je veux dire, on dirait que nos municipalités, nos gouvernements se lèvent le matin. Tout ce qui les intéresse, là, c'est d'avoir des revenus supplémentaires, donc de taxer et d'imposer davantage. Il va falloir à un moment donné arrêter. Là, c'est le privé qui nous dit on n'est plus capable.
Ben exact. Je ne sais pas si vous avez vu notre sortie aujourd'hui dans le soleil. On a fait un sondage auprès des entrepreneurs, presque 800 répondants à travers le Québec. Puis le message est quand même assez clair. Là, c'est 66 % des dirigeants de PME au Québec qui ne sentent pas que leurs enjeux économiques sont repris par les municipalités. Quand on leur demande ce qu'ils attendent de leur des 4 prochaines années, ils disent ben tu sais, baisser les taxes.
Oui, rendre l'environnement facile pour ça. Nous, là, tu sais. Non, non, sont déplogués complètement. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est commander des études à des firmes comptables pour leur trouver des nouvelles façons de taxer.
Mais tu sais, puis une entreprise n'a pas le luxe de pouvoir, comme une administration publique, augmenter les taxes, augmenter les impôts. Ça rentre pas comme ça. Il faut qu'ils améliorent leur performance, il faut qu'ils améliorent leur productivité, il faut qu'ils trouvent des nouveaux clients. Puis si c'est pas le cas, ben ils mettent la clé dans la porte, là. Puis quand on regarde l'économie du Québec, c'est une économie de petites et moyennes entreprises. J'ai les commentaires là du sondage qu'on a fait sur les municipalités, puis il y a un entrepreneur qui dit « Hey, moi je regarde mon compte de taxes, là, il arrête pas d'augmenter. Ouais. Mais il dit « Moi, mes revenus, ils augmentent pas, là. » Est-ce que la municipalité peut nous donner un petit break? Fait que nous, c'est ça, c'est au lieu d'aller faire des discours à l'ONU pour essayer de sauver la planète, on peut se concentrer sur sa mission essentielle, améliorer le service, puis limiter l'augmentation des taxes, puis ben faire comme le provincial puis le fédéral, puis adopter des plans d'allègement réglementaire, parce que les municipalités, il y en a pas de plan d'allègement réglementaire, et ça existe pas. Mais quand on regarde le fardeau administratif et réglementaire, les villes ont leur part dans le poids et dans le coût pour les entreprises, mais ils devraient aussi avoir une responsabilisation comme les paliers de gouvernement supérieur.
C'est quoi la communication que vous avez avec le gouvernement de François Legault? Là, on va commencer à préparer le budget du mois de mars de l'an prochain, là, puis il y a toujours des consultations à Québec. Vous allez faire vos demandes, vous allez leur parler. C'est quoi la communication? Est-ce qu'ils saisissent ça ou bien c'est de la chimère? Puis les PME, ça ne nous intéresse pas.
Non, mais je sais, retournez écouter le discours d'ouverture, puis le PM, il parle des PME. On voit aussi une réorientation assez grande pour alléger la paperasse, couper dans la bureaucratie, revoir le modèle de l'État. C'est un narratif qu'on a depuis des années.
Ben, il était là en 2018. La CAQ disait ça en 2018 avant d'être élu. Ils ont été élus, ils n'ont rien fait.
Oui, mais là, il reste un an. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre.
Je sais qu'ils n'ont rien à perdre, mais c'est toujours la situation justement. Du désespoir. Là. C'est toujours à la fin, là, quand il reste 10 secondes au tableau. Puis là, ils nous sortent l'histoire, là, l'urgence, tu sais.
Oui, mais moi, je suis un optimiste. Okay. Moi, je pense qu'au bout de la ligne, tu sais, toutes les interventions qu'on a faites, que les entrepreneurs ont fait, l'importance que notre organisation a pris, notamment au niveau du membership, a eu un rôle dans la balance. Vous avez vu, on est l'organisation la plus active au niveau de la représentation politique au Québec. On gagne pas tout, là, mais pour être capable d'avoir un changement, faut qu'au départ, il y ait un engagement puis qu'il y ait des prises de position qui soient prises. Puis maintenant, revoir le modèle de l'État, là, il est temps là, qu'on s'en occupe. Puis ça, c'est une orientation forte qui est intéressante, qui démontre que notre organisation, on a de l'influence. Puis on va être là pour appuyer le gouvernement là-dedans. Maintenant, il y a encore des dossiers à régler. On reste encore l'endroit qui est le plus taxé, on est les champions de la fiscalité pour les petites entreprises. Ça, on va continuer à travailler là-dessus, mais le contexte budgétaire est difficile pour un gouvernement de couper des sources de revenus, même si tu surimposes puis surtaxes tes entreprises quand tu as un budget déficitaire. Mais qui entreprennent une révision de la bureaucratie pour améliorer leur efficacité, ça peut amener ensuite à ce qu'il y ait cette prise de décision-là. Puis sur l'immigration aussi, on a des craintes parce que la pénurie de main-d'œuvre est vive, surtout en région. Puis vous pouvez compter sur la FCEI pour être là. J'étais là mardi dans le Salon Rouge pour le discours d'ouverture du PM. Mardi prochain, je vais pour deux commissions parlementaires sur l'immigration puis sur le commerce interprovincial. On est là où ça compte, quand ça compte.
Pour l'immigration, qu'est-ce que vous demandez?
Pour l'immigration, là, on se met pas de la tête dans le sable. Là. On le sait qu'il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants qui sont arrivés dans les dernières années. Maintenant, si on ferme la Chambre et des travailleurs temporaires et des permanents en même temps, les premières victimes, ça va être les petites entreprises parce que le taux de postes vacants est plus important pour les plus petites entreprises. Les premières victimes, ça va être les régions parce qu'il y a encore 11 régions administratives au Québec qui ont un déficit de main-d'œuvre par rapport aux postes vacants et aux immigrants temporaires et permanents. Nous, ce qu'on pense qui devrait être fait, là, c'est de créer une passerelle pour les temporaires. Ils sont là, ils ont un logement.
Oui, ils sont
là. On ne leur donne pas la possibilité de rester au lieu de les envoyer chez eux. Puis ensuite de ça, si on fait ça, c'est sûr qu'on va dépasser le seuil prévu. Mais si on veut réduire l'immigration, il faut l'augmenter pour assurer qu'on puisse rendre permanent les temporaires puis qu'on renvoie pas des travailleurs essentiels pour des entreprises qui vont se retrouver en énorme difficulté puis qui pourraient fermer.
Oui, on le voit. Il y a des exemples à tous les jours. Transparence syndicale, vous dites quoi là-dessus? Le ministre Boulay veut réformer toute l'histoire des syndicats. On dit quoi à la FCEI?
J'ai écrit un texte dans les affaires hier soir qui a été publié. On a été ciblés par des centrales syndicales, notamment qu'on devrait être sous le même régime. Nous autres, on dit devenir membre de la FCEI, c'est volontaire. Le membre, l'entrepreneur, il peut devenir membre ou pas de la FCEI.
Oui, exact.
Et à chaque année, on retourne le voir et on dit « Veux-tu rester chez nous? » On met notre membership en jeu à chaque année. Puis on a eu une augmentation du membership depuis 2021 à 20 000 membres jusqu'à 22 000 membres cette année. La meilleure sanction démocratique, c'est d'aller voir ton membership. Fait que les syndicats qui nous donnent un exemple, ben, qu'ils fassent donc la même chose, qu'ils rendent volontaire l'adhésion de leurs travailleurs syndiqués, puis ils viendront nous reparler après. Puis ensuite de ça, quand il y a une obligation syndicale comme ça, qui génère des cotisations énormes, le premier ministre, dans son discours d'ouverture, parlait de 1,5 milliard, qui a des dépenses douteuses qui ont été documentées par les médias,
oui.
Ben, qui commence à se regarder dans le miroir avant de et qui soit ouvert à la transparence. Il n'y a rien d'antisyndical à l'amélioration de la transparence puis à l'amélioration de l'amélioration continue. On invite la partie syndicale à prendre ce débat-là avec hauteur, puis nous, on va être là pour supporter le gouvernement dans cette orientation-là.
Post-Canada, là, ça commence à... Il est dépassé minuit, là. L'entreprise ouais. perd 10 millions par jour, là, d'une grève générale. Les PME, eux autres, là, se sont revirés de bord, on comprend, là. Mais ça nuit, ça, à beaucoup de petites et moyennes entreprises, là.
Pour avoir un service postal qui fonctionne, il faut que tu puisses envoyer des colis. Tu sais, la non-prévisibilité fait en sorte qu'énormément de PME qui vont changer de fournisseur. Puis, tu sais, les entreprises, les dirigeants d'entreprises qu'on l'a demandé, tu sais, ils veulent avoir le service postal. C'est important, notamment pour les régions éloignées. Maintenant, là, qu'on règle ça parce que ça n'a juste pas de bon sens.
François-Vincent de FCEI, très content d'avoir jasé avec vous et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.
Merci de l'invitation. Bye-bye.
Bye-bye. Voilà, François-Vincent. Vice-président Québec de la FCEI, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Eux autres, ils en ont des membres. Là. Eux autres, quand ils jasent, là, il y a du monde qui répond de l'autre bord. Là.
Concernant les syndicats, là, la seule raison que je vois qu'ils refusent cette transparence-là, c'est qu'ils ont des dépenses qui sont très militantes, où ils vont s'ingérer dans des décisions gouvernementales, dans des élections également provinciales.
On a vu ça.
Tout cet argent-là là, qui est mis pour faire de la publicité ou du marketing ou du lobbying. Je suis pas sûr que ça représente tous les membres, par exemple, de la FTQ.
Oui, puis je suis pas sûr que tous les membres sont au courant de toutes les dépenses.
Exactement. Fait qu'ils veulent pas que cette transparence-là soit mise au grand jour. Là.
Hier, à l'Assemblée nationale, Jean Boulay, il a tiré des pointes. Là. Il a tiré des pointes sur pas mal de monde. Là. Donc voilà, ça fait le tour. Après la pause, François Charon, on jase de techno.
Coup sûr dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy. Radio X.